Elles étaient déjà passées de 2,4% à 0,95% en janvier dernier. Les cotisations salariales pour l'assurance chômage disparaissent totalement ce mois-ci. Cela va se traduire par une hausse de salaire, mais pourrait pousser certains patrons à ne pas augmenter leurs salariés. Les syndicats le craignent, vous l'entendrez. Dans cette édition encore, nous irons à Birmingham, où se retrouvent cette semaine les conservateurs britanniques, tiraillés entre un Brexit dur et le refus de sortir de l'Union européenne. Tiraillés aussi les habitants de la Macédoine, si le oui au référendum pour changer de nom l'a emporté hier, seul un tiers des électeurs ont voté. Et d'abord donc, cette augmentation annoncée sur les bulletins de paie des salariés. En ce 1er octobre, les cotisations chômage disparaissent. Cela s'ajoute à la suppression des cotisations maladie en vigueur depuis janvier dernier. Cette suppression des cotisations chômage représente 258 euros par an en moins pour une personne au SMIC. Mais au moment où les négociations salariales s'ouvrent dans de nombreuses entreprises, ce pourrait être un argument pour freiner toute velléité d'augmentation, Hélène Philly.
Certains syndicats le craignent dans des secteurs comme celui de la restauration collective notamment. Ce représentant CFDT travaille chez Elior, l'un des leaders de la branche.
Pour nos patrons de nos grosses entreprises de restauration de collectivité, c'est quand même pas béni parce que quand nous, on va plaider la cause des salariés pour évoquer, demander, exiger du pouvoir d'achat pour vivre mieux, pour que les salariés vivent mieux en termes de logement, en termes de, voilà, de tout ce qu'on veut, c'est clair que le discours de la direction, il est tout trouvé. Ils vont nous dire, mais le pouvoir d'achat, vous l'avez eu, vous avez obtenu du pouvoir d'achat avec les baisses des cotisations. Donc là, nous, on va être en mauvaise posture.
Dans d'autres secteurs, l'argument aura du mal à peser. L'automobile, par exemple, où les entreprises se portent plutôt bien, les bénéfices sont là. Brahim Aitatman, délégué force ouvrière chez PSA, ne croit pas un instant que la direction se serve de ces suppressions de cotisations comme moyen de pression.
Pour la bonne et simple raison, c'est qu'une entreprise, quand elle commence à discuter les salaires, c'est plutôt l'inflation, c'est plutôt les bénéfices qui orientent sa politique salariale.
Ce sera sans doute plus difficile de réclamer des augmentations si l'entreprise connaît des difficultés.
Les précisions d'Hélène Philly. Autre changement en ce 1er octobre, les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie à 4,5 millions de ménages en France, ils augmentent en moyenne de 3,25% pour ce mois d'octobre. Il s'agit du sixième mois consécutif de hausse. C'est une bonne journée pour le Canada. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, se félicite ainsi de l'accord trouvé cette nuit pour un nouvel ALENA. Cet accord de libre-échange nord-américain maintient intact le système d'arbitrage des litiges commerciaux, ce que souhaitait Ottawa. Les Canadiens qui ont par ailleurs accepté d'assouplir leur quota laitier pour les Américains. Et face à la fronde de certains éleveurs canadiens, le gouvernement pourrait s'engager à dédommager les producteurs concernés par cet accord. Difficile, là, de poser un accord sur le papier concernant le Brexit en Grande-Bretagne. À 6 mois de la sortie de l'Union européenne, le gouvernement est dans l'impasse. Theresa May, la première ministre, est affaiblie depuis que Bruxelles a rejeté ses propositions d'accord commercial. Et en interne, elle est prise en tenaille entre les militants conservateurs qui refusent de sortir de l'Union européenne et ceux qui trouvent au contraire que le Brexit est trop mou, qu'il faudrait une rupture totale avec Bruxelles. À Birmingham, le congrès annuel du Parti conservateur s'ouvre ainsi dans une ambiance de guerre fratricide entre pro et anti-Brexit. C'est un reportage d'Antoine Gignot.
Deux salles, deux ambiances au congrès des conservateurs. Dans le centre-ville, plusieurs centaines de militants protestent contre la sortie de l'Union européenne. Dan C. Marks a 22 ans, il a sa carte du parti et il réclame un deuxième vote sur le Brexit.
Il y a plus d'un million de jeunes qui veulent un nouveau référendum. C'est le moment le plus important qu'ait connu notre génération. L'accord proposé par le gouvernement menace notre économie et la frontière irlandaise. Nous, on n'a pas voté pour ça.
À quelques kilomètres de là, en banlieue, la colère est la même, mais le discours est différent. Les militants conservateurs proches de l'extrême droite dénoncent la trahison du gouvernement qui fait des compromis avec Bruxelles. Mike Wilkinson veut remplacer Theresa May par Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères.
Il est très charismatique, c'est un bon orateur. J'ai envie de dire que n'importe qui serait un meilleur Premier ministre que Theresa May. Si on ne résout pas le problème, le Parti conservateur n'a plus d'avenir. Il pourrait même se diviser.
Car à l'image des deux rassemblements, il y a aujourd'hui au Parlement près de 80 députés conservateurs qui contestent, pour une raison ou pour une autre, l'autorité de la Première ministre.
Notre correspondant en Grande-Bretagne, Antoine Gignot, que nous retrouverons à 7h24 tout à l'heure pour le reportage de France Culture. Victoire en demi-teinte à Skopje. Le oui l'a emporté lors d'un référendum hier pour troquer le nom de République de Macédoine en une République de la Macédoine du Nord, comme le demandait Athènes. Le oui donc à 91%, mais avec un très faible taux de participation, 31% environ. Voilà qui inquiète la Grèce, qui appelle au respect de l'accord signé entre les deux gouvernements. Les précisions d'Angélique Kournis.
Coup de blues balkanique à Athènes à l'annonce du résultat du référendum de Skopje. Certes, la majorité des votants a dit oui, mais moins d'un tiers des inscrits a fait le déplacement. D'où la question qui taraude Athènes, pressée d'en finir avec ce dossier. Est-ce que le référendum va être validé? Il y a discordance, a sobrement commenté le ministère grec des Affaires étrangères. Une grande partie des électeurs a dit oui, mais une plus grande partie a considéré cet accord avec scepticisme, a-t-il relevé dans un communiqué, allusion à tous les projets de coopération inclus dans les quelques 21 pages que compte cet accord de Prespes signé en juin dernier. La cacophonie a très vite remplacé le flottement politique qui s'est installé hier au fil de la soirée à Athènes, avec d'un côté le ministre de la Défense Panos Kamenos, opposé à l'accord mais allié souverainiste contre nature du premier ministre grec Alexis Tsipras. Panos Kamenos a écrit dans un tweet que la faible participation rendait le référendum nul et non avenu, alors qu'au même moment Alexis Tsipras téléphone à son homologue macédonien pour lui exprimer son soutien et saluer sa détermination à poursuivre la mise en œuvre de l'accord qui lie leurs deux pays. Le tout sur fond de manifestations nationalistes des deux côtés de la frontière. Les deux hommes, Alexis Tsipras et Zoran Zaïev, veulent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si leurs parlements respectifs ne valident pas le résultat du référendum, ils devront tous les deux provoquer dans leurs pays respectifs des élections anticipées qu'ils seront, selon toutes les prévisions, sûrs de perdre. Autant dire que la ratification du résultat de ce référendum est une voie à sens unique tant pour Athènes que Skopje.
L'Iran annonce ce matin avoir attaqué à l'aide de missiles balistiques un quartier général de terroristes, selon les mots de Téhéran, un quartier en Syrie, à l'est de l'Euphrate, et cela en représailles de l'attentat qui avait visé la ville iranienne d'Azvaz le 21 septembre dernier. Partons maintenant en Israël, où Salah Amouri a été libéré cet après-midi. Cet avocat de mère française et de père palestinien avait été arrêté en août 2017 et placé en détention administrative. Un régime dénoncé par la communauté internationale et qui permettent à l'État hébreu d'incarcérer des Palestiniens sans inculpation ni jugement, tout en maintenant le dossier secret. Salah Amouri était soupçonné d'avoir renoué avec un groupuscule placé sur la liste des organisations terroristes, ce qu'il nie. De retour hier auprès d'une partie de sa famille, il s'est confié à Marine Vlaovic.
Dans leur maison située dans un faubourg de Jérusalem-Est, les parents de Salah Amouri ont mis de la musique en fond sonore, même si l'avocat franco-palestinien a l'interdiction de fêter sa libération.
Ça y est, c'est bon.
Après 13 mois de prison, il fait son retour, sourire aux lèvres, sous des cris de surprise. Soupçonné de conduire des activités illégales en Cisjordanie et à Jérusalem et placé en détention administrative, c'est-à-dire sans inculpation ni vrai procès, le trentenaire dénonce une arrestation arbitraire.
Il n'y a rien qui explique pourquoi ils sont venus. Aucune charge qui a été faite, il n'y a rien. Même les interrogatoires, ils n'ont pas duré plus qu'une demi-heure. Ils m'ont dit, tu vas aller en détention administrative, toi tu es un danger sur la sécurité d'Israël et tu dois rester en prison jusqu'à qu'on décide, nous, le renseignement, quand est-ce que tu vas être libre.
Désormais libre, Salah Amouri a un objectif, retrouver sa femme française et son fils qui sont interdits de territoire par Israël depuis bientôt 2 ans.
Le retour de ma femme et mon enfant, c'est un deuxième combat pour moi parce que je sais bien que le seul but pour les Israéliens c'est de se débarrasser de moi et de m'obliger à sortir du pays.
Mais ça vous voulez pas?
Non, ça c'est une décision définitive pour moi, je reste là, il manque trop. Mais malgré ça, ça va, le moral ça va, et j'espère pour le reste des prisonniers qu'ils vont sortir au plus vite.
Selon des organisations de défense des droits des prisonniers, 450 Palestiniens sont actuellement incarcérés en Israël sous le régime de la détention administrative.
Des enterrements vont avoir lieu par centaines et très rapidement en Indonésie. Les autorités veulent prévenir des risques sanitaires après le tremblement de terre suivi d'un tsunami sur l'île des Célèbes ce week-end. Le bilan ce matin est de 832 morts. Le temps de ce lundi, en France, il sera plus frais avec notamment des averses et des orages à l'est de la France. Il pourrait même neiger sur les Alpes. Par contre, du Languedoc-Roussillon jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, le soleil va dominer, tout comme sur la façade ouest. Et comptez ce matin 10 degrés seulement à Metz, 12 à Strasbourg, 13 à Brest, Lille et Paris, 14 à Lyon, 15 à La Rochelle, 22 degrés à Nice.